journal, Bernadette Chamenaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Éviter une guerre commerciale ravageuse, les Européens vont donner leur feu vert pour reprendre les négociations avec les États-Unis. Un seul ne signera pas, Emmanuel Macron, au nom de la défense du climat. Explication en direct de Bruxelles dès le début de ce journal. Élection européenne, quand le style l'oiseau, tête de liste de la majorité, est contesté parmi ses propres troupes. Enfin, l'Europe a moins de 2 mois d'un scrutin crucial. On en parle avec votre invité à 8h20, Ali.
Brexit, élections européennes, privatisation d'aéroports de Paris. Qu'en pense la secrétaire d'État chargée des affaires européennes? Amélie de Montchalin sera l'invitée du grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert. Vos questions à Amélie de Montchalin au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
Dans l'actualité encore au Soudan, le peuple est-il en train de se faire voler sa victoire par l'armée? Nous irons au Maroc où des milliers de mineurs continuent d'être mariés malgré les changements de la loi. À Marseille, la mosquée des quartiers nord enfin ouverte hier dans la joie. Le deuil, un traumatisme pas assez accompagné dans notre société, dernière étude du Crédoc. Enfin, ils sont déjà là, au plus près des pavés, les fans de Paris-Roubaix.
France Inter.
C'est donc un feu vert important que les Européens vont donner lundi à la Commission pour l'ouverture de négociations commerciales avec les États-Unis. Angélique Boin, bonjour, vous êtes en direct de Bruxelles. L'objectif est simple, éviter la guerre commerciale qui menace depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Un Donald Trump très vindicatif sur la question.
Oui, la diplomatie des tweets de Donald Trump a fait effet. Depuis des mois, le président américain menaçait, si ce dossier ne s'ouvrait pas, de taxer les automobiles européennes, un secteur, rappelons-le, vital pour l'Allemagne. Les 27 ont donc cédé, mais le mandat qui a été adopté est très restrictif. Pas question pour les Européens de rouvrir le très controversé TTIP, cet accord commercial très large qui avait été négocié entre Bruxelles et Washington, puis suspendu en 2016. On ne devrait discuter que d'échanges de biens industriels, les services, les marchés publics ou encore l'agriculture sont exclus des discussions, selon le projet de mandat validé hier. Mais les Américains, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils comptent bien évoquer les produits agricoles. C'est donc un point de désaccord qu'il faudra régler.
Alors, on voit bien, Angélique, l'enjeu économique de ces négociations. Pourtant, un pays, un seul, s'oppose farouchement à leur réouverture. C'est la France. Emmanuel Macron, lundi, ne signera pas, au nom de la défense du climat, dit-il, un engagement de longue date du président français.
Oui, le président Macron avait dit devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2018 qu'il refuserait de signer tout accord commercial avec un pays qui ne respecterait pas l'accord de Paris sur le climat. Question de valeur, dit-on à l'Élysée. Mais la France est isolée sur cette ligne et les décisions commerciales ici se prennent à la majorité qualifiée. Un seul pays ne peut donc pas s'y opposer. La France a néanmoins bataillé depuis des semaines, dit une source diplomatique, avec ses partenaires européens pour exclure l'agriculture ou pour qu'il soit écrit noir sur blanc que le TTIP est obsolète, afin de s'assurer que l'on repart d'une page blanche. C'est donc une demi-victoire. Paris qui espère bien également trouver des alliés dans le futur Parlement européen pour s'opposer à un accord final qui ne prendrait pas en compte l'enjeu climatique. La signature en grande pompe à la Maison-Blanche n'est donc pas pour demain.
Merci Angélique Boin en direct de Bruxelles. Feu vert donc lundi. Les négociations ne devraient pas démarrer avant quelques semaines. Négociations commerciales qui devraient en tous les cas doper l'économie, alors qu'en France, selon Pôle emploi, les entreprises anticipent un taux record d'intention d'embauche pour cette année. 350 000 de plus qu'en 2018. Bâtiments, restauration, agents d'entretien, ce sont les secteurs les plus en demande. Mais sur tous ces projets, 1 sur 2 seulement devrait se concrétiser, faute de main-d'œuvre disponible. Commerce avec les États-Unis, Brexit, 2 fois donc coup sur coup cette semaine. Emmanuel Macron a joué la fermeté, le quasi seul contre tous. Démonstration du rôle qu'il entend faire jouer à la France après les élections européennes, d'où l'importance de la liste de la majorité présidentielle. Mais n'y a-t-il pas eu erreur de casting en tête après 17 jours de campagne? En tous les cas, le style l'oiseau interroge, voire inquiète son propre camp, Karine Bécard.
Quelques doutes sont apparus dans l'équipe de campagne de La République En Marche. Certes, personne ne conteste les qualités sur le fond de Nathalie Loiseau, mais sur la forme, la tête de liste, après 2 semaines et demie, peine toujours à convaincre. Ce n'est pas un tribunnet, résume l'un des membres de son équipe, ce qu'elle avait elle-même assez bien résumé quand elle est devenue officiellement candidate.
Je ne suis pas une vieille bête de foire de la politique politicienne, je vous le confirme.
Alors peut-être, mais tout de même, faut-il lui apprendre à placer sa voix, ce qu'avait fait Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Certains membres membre de l'équipe de campagne, assure que ce travail a déjà commencé. Un travail de respiration minimise l'entourage de l'ancienne ministre. En tout cas, premier meeting le 30 mars, sa voix un peu plus grave a commencé à changer.
Merci. Merci d'être là. Merci d'être joyeux. Merci d'être enthousiaste.
Maintenant, il serait aussi quelques-uns à souhaiter la relooker. Pas question. Répond cette fois l'un de ses plus proches collaborateurs. Elle doit rester, je cite, comme elle est. Cela dit, reconnaît un député, notre succès aux européennes n'est pas indexé sur Nathalie Loiseau. Tout le monde le sait.
Nathalie Loiseau qui sera aujourd'hui en déplacement à Tourcoing pour cette campagne pour les européennes.
8h06, c'est cette question, Bernadette. Au Soudan, le peuple est-il en train de se faire voler sa victoire par l'armée?
Le tyran El-Béchir est tombé, destitué, mis en lieu sûr, autant dire emprisonné. Mais hier soir, c'est un militaire qui est apparu à la télévision nationale pour annoncer une transition de 2 ans avant de nouvelles élections. Claude Guibal.
Cet homme qui s'est exprimé hier devant les caméras de la télévision nationale, tous les Soudanais le connaissent. Le ministre de la Défense, Awad Mohamed Ibn Aouf, pas vraiment le militaire que les civils espéraient voir à la tête de la transition qu'il réclamait pourtant. Les manifestants auraient souhaité des figures plus consensuelles que cet homme, jusqu'à peu considéré comme un très proche d'Omar al-Béchir, ancien chef des renseignements militaires et sur lequel pèse également la menace de poursuite pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit au Darfour. Autour de lui, une junte qui va donc administrer le pays pendant une transition de 2 ans. Pour les Soudanais, la crainte, c'est que ce ne soit pas une rupture avec le régime d'Omar al-Béchir, bien au contraire, plutôt la préservation d'un système où on aura coupé une branche morte pour mieux préserver les intérêts de l'armée. L'armée qui siffle ainsi la fin de la récréation et demande, en prenant le pouvoir, aux civils de rentrer chez eux.
Sur cette situation au Soudan, le Conseil de sécurité se réunit en urgence. Aujourd'hui, le secrétaire général Antonio Guterres demande que cette transition respecte les aspirations démocratiques des Soudanais. Une nouvelle journée test en Algérie, nouveaux appels à manifester en masse pour une véritable transition politique que toute la classe politique issue du vieux monde dégage. Nouvelle manifestation donc dans un contexte de plus en plus tendu. Le patron de l'armée a usé d'un ton menaçant à l'égard des manifestants. Il les accuse d'être en partie manipulés par une main étrangère. Au Maroc, plus de 25 000 mariages de mineurs ont été prononcés l'an dernier. Des chiffres qui interpellent tout le monde et c'est le ministre de la Justice qui s'exprime ainsi. Car les autorités, les institutions ont changé la loi, ont relevé l'âge de la majorité pour se marier. Mais une partie de la société résiste toujours. C'est un reportage de Théa Olivier à Casablanca.
Dans sa djellaba rose, Myriam a le regard fuyant quand elle raconte son histoire.
J'avais 17 ans quand je me suis mariée avec cet homme, mais je ne le connaissais pas, je l'avais rencontré depuis une semaine. Sa mère est venue pour la demande en mariage et a dit qu'il avait été tabassé à cause de moi et je me suis sentie obligée d'accepter le mariage. Il était plus âgé que moi, il avait 35 ans.
4 ans plus tard, la jeune fille est divorcée et elle a un fils. Elle regrette ce mariage alors qu'elle était encore mineure. Depuis 2004, l'âge légal pour se marier est passé de 15 à 18 ans, mais un article de loi permet à un juge d'autoriser des mariages de mineurs. Un article contre lequel se bat Abdelrani Berdi, membre du Conseil national des droits de l'homme.
La solution pour nous, c'est d'abolir l'exception, c'est de supprimer, éliminer ces dispositions du Code de la famille.
L'abolition de cet article de loi se joue d'abord au Parlement, comme l'explique Othman Abid, chef de division de la famille au ministère de la Justice.
Le projet de loi est travaillé au niveau parlementaire. Le plus important, c'est que l'âge ne soit pas en dessous de 16 ans. C'est-à-dire que l'exception sans avoir l'âge du mariage doit être entre 16 et 18 ans.
Certaines associations féminines demandent à ce que le mariage des mineurs soit considéré comme un mariage forcé, désormais pénalisé par la loi contre les violences faites aux femmes.
Reportage donc de Théo à Olivier à Casablanca. Je ne sais rien de Wikileaks. Déclaration hier de Donald Trump, le même qui clamait il y a 2 ans son adoration pour le fondateur du site, pour le site. Julian Assange, arrêté hier à Londres, risque plus que jamais l'extradition vers les États-Unis. Cette demande sera examinée le 2 mai par la justice britannique. Alors de quoi est-il accusé exactement? Un dossier complet à retrouver sur franceinter.fr.
8h10, c'est une photo qui a fait le le tour du monde.
Une petite fille en larmes. Cette image, prise par le photographe John Moore à la frontière entre Mexique et États-Unis, a été élue photo de l'année du prestigieux World Press Photo. La fillette et sa mère viennent du Honduras. Elles tentent de passer cette frontière barricadée. J'ai voulu montrer l'humanité au-delà des statistiques, explique John Moore. Mais avec cette photo, il va donc aller plus loin encore en faisant fléchir la politique migratoire de Donald Trump. Au travail pour leur expulsion, un tweet hier du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini. 70 migrants ont été débarqués hier soir sur l'île italienne de Lampedusa. Ils avaient été interceptés dans la journée sur leur embarcation en mer. Ils affirment être tunisiens et libyens. Les autorités italiennes sont sceptiques. On va vérifier tout ça et lancer très vite les procédures d'expulsion, disent-elles. Une mosquée inaugurée hier à Marseille, c'était la fête dans une des grandes cités des quartiers nord, les Cèdres. Après 10 ans de travaux financés à 100% par les fidèles, cette mosquée a ouvert en présence de toutes les autorités politiques de la ville, Jean-Claude Gaudin en tête, le maire. Les habitants du quartier à majorité de confession musulmane vont enfin avoir un lieu de prière décent. Jusqu'à présent, Olivier Martoc, il priait dans des caves ou des appartements.
Il ne reste plus un espace de libre dans les 300 mètres carrés de la grande salle de prière du rez-de-chaussée. Elle est bondée. La plupart des habitants de la cité font partie des donateurs qui ont permis de rassembler 1 300 000 euros pour les travaux.
Il faut savoir que c'est une mosquée. Elle était dans un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble qui a été rasé d'ailleurs. On sort de la grandiosité, du misérabilisme, des doigts qui montrent toujours des caves ou des appartements, enfin de tout ça.
C'est vraiment impressionnant et on espère que ça va donner des idées à beaucoup de musulmans de sortir des caves. On n'y croyait pas et voilà aujourd'hui le résultat.
Franchement, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail avec justement la générosité des gens. C'est ça surtout qui est formidable en fait. On se rend compte que quand les gens sont solidaires, on peut quand même arriver à quelque chose et franchement, j'en suis très fier.
Jean-Claude Gaudin en tête, les politiques marseillais se sont déplacés en nombre pour cette inauguration. Tous saluent le jeune imam Jamel Belidi.
Le vrai message de l'islam, la ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Le message de l'islam est un message de paix. Ce que nous prenons dans cette mosquée, c'est un discours de paix, c'est un discours d'apaisement, c'est un discours républicain.
Bravo, bravo. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Le deuil, 3 millions de Français le vivent chaque année. C'est toujours un traumatisme, c'est une évidence bien sûr. Mais pourtant, ce que révèle la dernière étude du CREDOC, le Centre d'études pour l'observation des conditions de vie, à l'occasion des premières assises nationales du deuil aujourd'hui au Sénat, c'est que ce moment intime a un impact considérable et au long cours. Delphine Evenou.
9 Français sur 10 ont vécu ou vivent un deuil qui les a particulièrement affectés et dans 5% des cas, il devient pathologique, des conséquences psychiques ou physiques réelles. Marie Tournigan, déléguée générale de l'association Empreinte.
60% des conjoints survivants qui ont perdu un proche après 65 ans ont une surmortalité avérée. Ça, c'est le cas extrême. Mais la conséquence peut être multiple. Maladie cardiovasculaire, addiction, conduite à risque en tout genre, accident. Lorsque les personnes étaient porteuses d'un cancer, il arrive que ce cancer explose à l'occasion d'un deuil.
Sans aller jusqu'à la pathologie, le deuil provoque aussi un épuisement physique pour plus de la moitié des personnes, parfois pendant plus de 6 mois, notamment en cas de perte de son conjoint ou de son enfant. L'accompagnement est donc nécessaire, d'autant plus que l'on vit dans une société de la performance, pointe Marie Tournigan.
Il est mal vu d'être fragile, de le rester. Un Français sur 2 estime avoir eu des phrases clichés qui l'ont fait souffrir. Passe à autre chose, il faut que tu l'oublies maintenant. Donc on est vraiment dans le gommage de cette vulnérabilité, probablement par sentiment d'impuissance totale.
L'association Empreinte appelle donc à des mesures comme la création d'un référent deuil dans chaque entreprise, école, hôpital, pour mettre fin au sentiment d'isolement.
Delphine Evenou, un accident tous les 3 jours au passage à niveau et le nombre de victimes qui ne baisse pas, c'est ce que révèle un rapport de Laurence Guette, députée La République En Marche, des Pyrénées-Orientales, le département où se trouve Millas, où a eu lieu l'accident du car scolaire qui a percuté un TER, accident qui a coûté la vie à 6 enfants. Il y a eu 109 collisions en 2017, 42 tués, 15 blessés graves. C'est plus même qu'en 2014, lors du dernier plan d'action pour améliorer les infrastructures. La députée estime que l'action gouvernementale se focalise sur un trop petit nombre de passages à niveau. Ils sont déjà là, leur camping-car, stationné au plus près des pavés, les fans de Paris-Roubaix. Stéphane Barbereau de France Bleu Nord est allé à leur rencontre. Il est allé au Carrefour de l'Arbre, Moulin de Vertin, Canfin, Ampévelle. Tout cela sent bon son terroir et sa course de légende.
À Templeuve, au Moulin de Vertin, Denis et Chantal ont garé leur camping-car à un mètre seulement des pavés. Chantal veut du spectaculaire dimanche.
On est cruel parce qu'on attend qu'il se casse la figure.
Un peu plus loin, à Gruson, près du Carrefour de l'Arbre, on tombe sur cette famille flamande. Josiane Van de Broek est arrivée dès lundi.
Oh, pour avoir une bonne place, on aime bien venir ici.
Déjà 5 camping-cars sur ce tout petit parking du village. Josiane fait un signe de la tête en direction de ses voisins.
Eux sont l'ami de nous.
Eux, c'est un couple de retraités également, mais français, Bernard et Marie-Françoise. Ils voyagent de classique flamande en classique ardennaise avec leurs voisins belges rencontrés ici et depuis, à cette période de l'année. Ils ne se quittent plus.
Pendant toute la saison des courses, là, un mois.
Et à les entendre ici, ils sont comme des coqs en pâte.
Le maire, il nous ouvre un robinet poubelle. D'eau, une poubelle, il nous accueille très bien ici.
On est clients du marché, le boucher, le fromager, etc. Donc, fait marcher le petit commerce.
Et dès lundi, cette amitié née autour de Paris-Roubaix prendra la direction des Pays-Bas pour suivre une autre course cycliste, l'Amstel Gold Race.
Alors, 54 km de pavé, donc de quoi se régaler pour les amateurs de chute, mais une déception quand même, la trouée d'Arnaud. La fameuse trouée d'Arenberg, eh bien elle compte 100 mètres de moins qu'avant. Paris-Roubaix, ce sera dimanche.
Merci Bernadette Chamonaz.